carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Bonjour et bienvenue dans cette toute dernière émission consacrée à la vie de Frédéric Chopin. Jean-Pierre Grévois, grand mélomane et auteur du livre « Moi, Jean-Sébastien Bach », nous livre les dernières lettres du compositeur. Jean-Pierre Grévois, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans notre précédente émission, nous avions évoqué la fin de la relation entre Frédéric Chopin et George Sand. Outre la bonne société et son état de santé, ne parle-t-il pas d'autre chose ?
Eh bien, écoutez, à la fin de son séjour en Angleterre et en Écosse, il écrit une lettre tout à fait curieuse et visionnaire et tout à fait surprenante. C'est pas du tout comme ça qu'on imagine Chopin. C'est une lettre à son ami Albert, l'éternel Albert, qui est écrite à Londres. J'aime bien la date, c'est 8-17 juillet 48. On retrouve toujours la difficulté de Chopin à écrire les lettres d'un seul jet. Alors voilà la citation. Jusqu'à présent, les perturbations n'existaient que dans les cerveaux, dans les imaginations, dans les livres, au nom de la culture, de la justice, de la solidarité, etc. Mais à présent, toute cette fermentation appelle à la vengeance. Il n'y a pas de terme à la vengeance. Une guerre civile, pour des principes, provoquera certainement la destruction de la civilisation telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Dans quelques centaines d'années, tes arrière-arrière-arrière-petits-fils se rendront d'une Pologne libre dans une France rénovée ou dans ce qui se trouvera à la place. Surprenant, non ?
Et donc, suite à cette lettre écrite à Londres, nous allons donc écouter le final de la sonate numéro 2 en si mineur, opus 35.
Mais alors tout encore en Angleterre, il se préoccupe quand même de plus en plus de son avenir et je vais vous lire une lettre qu'il écrit toujours à Albert depuis l'Angleterre, le 1er octobre 1848. « En ce qui concerne mon avenir, tout va de mal en plus mal. Je me sens de plus en plus faible et je ne peux rien composer. Non point que je n'en ai pas le désir, mais en raison d'empêchements matériels, je me traîne chaque semaine sur une autre branche. Que faire ? D'ailleurs, j'économise ainsi quelques sous pour l'hiver. J'ai reçu une multitude d'invitations, mais je ne peux même pas aller où je voudrais parce que la saison est trop avancée pour ma santé. Toute la matinée et jusqu'à 2 heures, je ne suis bon à rien. Plus tard, lorsque je suis habillé, tout me gêne et je halète jusqu'au dîner, après quoi il faut rester à table avec les hommes, regarder ce qu'ils disent et entendre comme ils boivent. Assis à cette table, je pense à autre chose qu'à eux, en dépit de toutes les gentillesses et des interlocutions en français, et bientôt étreint d'un mortel ennui, je vais au salon où je dois faire appel à toute ma force d'âme pour me ranimer un peu, car alors ils sont curieux de m'entendre. Puis, mon brave Daniel, c'est son serviteur, me porte dans l'escalier jusqu'à ma chambre à coucher, qui se trouve à l'étage, comme c'est, tu le sais, la coutume ici. Il me déshabille, me couche, me laisse une bougie et je suis libre de halter et de rêver jusqu'à ce que la même chose recommence. À peine suis-je un peu habitué à être quelque part qu'il faut aller ailleurs car mes Écossaises ne peuvent me laisser en paix où je suis et ou bien elles viennent me chercher ou bien elles me trimballent dans toute leur famille. Elles finiront par m'étouffer par leur gentillesse et moi, par gentillesse aussi, je les laisserai faire.
Donc suite à cette atmosphère lourde, nous allons écouter le concerto en fa mineur, le deuxième mouvement, opus 21, qui est le Larghetto. Donc Chopin est revenu à Paris. Dites-moi, monsieur Grivois, comment cela se passe-t-il ?
Eh bien, ça a l'air de se passer pas mal, sauf qu'il est quand même toujours très faible et très malade. Et sa correspondance s'adresse essentiellement à Solange, la fille de George Sand, à son cher ami Albert, et à sa famille de Pologne. À Solange, par exemple, il dit dans une lettre « J'ai vu votre mari, il est venu me voir vendredi, il m'a donné de vos bonnes nouvelles ». Et puis alors, Solange, je ne sais pas, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin, elle avait une première petite fille qui est morte au bout de quelques jours, et elle vient d'accoucher d'une seconde petite fille, et Chopin lui écrit cette phrase charmante « Un ami bien malheureux vous bénit et bénit votre enfant. Il faut absolument être heureuse et conserver votre bon souvenir à ceux qui vous aiment ». Et alors Solange, il parle aussi de Clésinger, mais il lui arrive de ne pas être très gentil dans ses jugements sur Clésinger. Dans une lettre, il dit à Albert « Clésinger a ramené Solange après 10 jours de voyage par la canicule, sans argent, et au moment où tout le monde se sauve à la campagne. Où a-t-il la raison? Il a perdu la tête, ou plutôt il l'a conservée, mais elle est bien mauvaise. C'est effrayant ce qu'il est bête. » Alors là, on retrouve le Chopin beaucoup plus gai et qui est beaucoup moins effondré que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais ces 2 ou 3 petites formules assassines sont assez extraordinaires. Et alors, il faiblit de plus en plus et il ressent le besoin d'avoir sa chère sœur Louise à côté de lui. Et il lui écrit une lettre que je voudrais que nous entrecoupions de citations musicales parce que c'est une lettre qui est pleine d'irrationalité, c'est une lettre presque délirante qu'il écrit le 25 juin à sa sœur Louise. Chaillot, le lundi 25 juin 1849. Mon âme, si vous le pouvez, venez. Je me sens faible et nul médecin me fera du bien comme vous. S'il vous manque de l'argent, empruntez-en. Quand j'irai mieux, j'en gagnerai facilement et je rembourserai celui qui vous l'aura prêté. Mais à présent, je suis trop à sec pour pouvoir vous en envoyer. Mon appartement de Chaillot est assez grand pour vous loger, même avec 2 enfants. Ce séjour serait à bien des égards profitable à la petite Louisette. Le père pourrait se promener toute la journée. Il y a une exposition de produits agricoles non loin de chez moi. En un mot, il aurait plus de temps libre pour lui-même que l'autre fois. Quand il dit l'autre fois, c'est la dernière visite que Louise et son mari avaient fait en France. Car je suis plus faible et je resterai davantage à la maison avec Louise. Mes amis et tous ceux qui me veulent du bien estiment que le meilleur remède pour moi serait l'arrivée de Louise.
Et donc, nous allons écouter le prélude numéro 4 en mi mineur, opus 28.
Alors je continue le texte de la lettre. « Procurez-vous donc un passeport. deux personnes que vous ne connaissez pas, l'une du Nord et l'autre du Midi, m'ont certifié que ce séjour serait non seulement favorable à ma santé, mais aussi à celle de ma sœur. Alors donc, maman Louise et Louise Fillette, prenez vos dés et vos aiguilles, je vous donnerai des mouchoirs à ourler, des bas à tricoter et vous passerez quelques mois à l'air frais en compagnie de votre vieux frère et oncle. À présent, le voyage se fait plus facilement, n'emportez pas beaucoup de bagages. Nous essayerons de nous contenter de peu. Vous aurez ici le gîte et la table. Et si Calassante, Calassante c'est le mari de Louise, trouve la distance entre les Champs-Élysées et ici trop grande, il pourra loger dans mon appartement du square d'Orléans. Les omnibus partent du square même et passent devant ma porte. Vous voyez toujours ce souci du détail. Hein. Je ne sais pas moi-même pourquoi je désire tant voir Louise. C'est comme une envie de femme enceinte. Je vous jure que ce voyage lui fera beaucoup de bien et à elle aussi. J'espère que le conseil de famille va me l'envoyer. Qui sait si je ne vous la ramènerai pas, si je guéris.
Vous allez écouter à présent le prélude numéro 15 en ré majeur, opus 28.
Thank you.
Alors je continue cette lettre qui, vous allez le voir, se fait de plus en plus délirante. « C'est alors que nous nous réjouirions tous et que nous nous embrasserions encore sans perruque et avec nos propres dents. La femme doit obéissance à son mari. C'est donc au mari que je demande d'amener sa femme. Je l'en prie de tout mon cœur et s'il pèse bien la chose, il verra qu'il ne pourrait faire un plus grand plaisir aussi bien à elle qu'à moi, ni rendre de plus grands services même aux enfants que vous emmèneriez avec vous. La petite fille, je n'en doute pas, viendra certainement. Il y aura, il est vrai, bien de l'argent dépensé, mais on ne pourrait mieux l'employer ni voyager plus économiquement. Une fois sur place, vous aurez un toit. Envoyez-moi bien vite un petit mot. Le médecin ne s'est plus montré depuis 10 jours. Il a compris enfin qu'il y avait dans ma maladie quelque chose dépassant son savoir. Pourtant, faites son éloge à votre locataire et à tous ceux qui le connaissent et dites-leur qu'il m'a fait le plus grand bien. Mais j'ai la tête ainsi faite. Dès que je vais un peu mieux, cela me suffit. Dites aussi à tout le monde qu'il a guéri quantité de personnes du choléra, celui d'ailleurs en régression, il a presque disparu. Le temps est superbe. Je suis assis dans le salon où j'admire tout le panorama de Paris, les tours, les Tuileries, la Chambre, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Étienne-du-Mont, Notre-Dame, le Panthéon, Saint-Sulpice, le Val-de-Grâce, les Invalides, à travers mes 5 fenêtres. Entre nous, rien que des jardins.
Vous allez à présent écouter le nocturne numéro 14 en fa dièse mineur, opus 48.
Et je vous lis maintenant la fin de la lettre. « Vous verrez, lorsque vous viendrez, maintenant, occupez-vous de l'argent et du passeport, et faites vite. Écrivez-moi tout de suite un mot. Les cyprès n'ont-ils pas aussi leur caprice ?» C'est un proverbe polonais que je ne connaissais pas. « Mon caprice est de vous avoir ici. Dieu permettra peut-être que tout aille bien, sinon, faites comme s'il le permettait. J'ai bon espoir, car je ne demande jamais grand-chose, et je me serais même abstenu de cela aussi, si je n'avais pas été poussé par tous ceux qui me veulent du bien. Remue-toi, monsieur Calassande, c'est le mari de Louise. Je te donnerai en revanche de grands et excellents cigares. Je connais quelqu'un qui en fume de fameux. J'espère que ma lettre écrite pour la fête de maman est arrivée et qu'ainsi je ne vous ai pas trop manqué. Je ne veux pas penser à tout, car c'est à donner la fièvre et grâce à Dieu je n'en ai pas, ce qui déroute et fâche tous mes médecins ordinaires. Votre frère fort attaché, mais bien faible.
Et pour terminer cette lettre, nous allons écouter le largo de la sonate pour piano et violoncelle en sol mineur, opus numéro 65. Et alors nous apprenons dans une lettre du 14 août 1849 adressée à Mademoiselle de Rosières que Louise est enfin arrivée. « Ma sœur et ma nièce sont avec moi depuis 5 jours. Je suis bien fatiguée. Eux aussi. Je vous souhaite autant de bonheur que j'ai dans ce moment avec un peu plus de santé car je suis plus faible que jamais. » Vous allez donc écouter à présent l'une des merveilleuses mélodies polonaises.
Oh,
Et alors voici maintenant un moment émouvant, c'est la dernière lettre que Chopin écrit. Il l'écrit à son ami le violoncelliste Auguste Franchaume, qui est en séjour à Tours à ce moment-là. « Cher ami, je suis plutôt moins bien que mieux. Monsieur Cruvillier, Monsieur Louis et Monsieur Blache, mes médecins, ont décidé dans une consultation que je ne devais pas entreprendre de voyager maintenant, seulement me loger au midi et rester à Paris. Après avoir bien cherché, il s'est trouvé un appartement très cher, réunissant toutes les conditions voulues, place Vendôme. Enfin, je vous verrai tous l'hiver prochain, bien installé. Ma sœur reste avec moi, à moins qu'on ne la demande beaucoup dans son pays. Je t'aime, et voilà tout ce que je peux te dire, car je tombe de sommeil et de faiblesse. Ma sœur se réjouit de recevoir Madame Franchaume, et moi aussi, bien sincèrement, cela ira comme Dieu voudra. »
Chopin est donc mort le 17 octobre 1849. Il avait demandé qu'à son enterrement soit joué le Requiem de Mozart. Requiem que nous allons tout de suite écouter avec le Lacrimosa. Voici donc la fin de ces 7 émissions sur la vie de Frédéric Chopin à travers ses écrits. Cependant, il nous semblait important, après avoir évoqué sa vie, ainsi que ses compositions, de parler du côté technique pianistique. Et c'est donc avec un réel plaisir que nous recevons dans cette toute dernière émission une spécialiste de Chopin, la pianiste Armelle Joubert, pour nous parler de cette technique si particulière qu'a amenée Frédéric Chopin dès la période romantique et qui est toujours enseignée. Armelle Joubert, bonjour.
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 Alors, qu'a apporté Chopin à la technique pianistique ?
Eh bien, je dirais que Chopin est né avec le piano. Donc, il nous a tout apporté. On peut faire la comparaison entre Bach, qui nous a apporté les 24 préludes et fugues. Chopin nous a apporté ses deux cahiers d'études, opus 10 et opus 20, qui nous permet justement d'assouplir la main, de trouver toutes les astuces pour que nous soyons libres et que nous puissions respecter sa pensée, c'est-à-dire de jouer du piano facilement. Il disait toujours la souplesse avant tout. Donc grâce à Chopin et ses études, nous apprenons la souplesse pour jouer.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ses études, c'est pas comme du Czerny, c'est des vrais chefs-d'œuvre finalement. Chaque étude est un chef-d'œuvre.
Alors voilà, c'est là où moi je dis qu'avec Chopin, nous sommes dans les dieux de l'Olympe et que pour Chopin, la virtuosité... Je n'aime pas employer le mot technique qui vient du grec technique et qui veut dire quand même art et métier. Donc de nos mains, qui est un métier, nous allons sortir de l'art. Donc il pensait surtout que la virtuosité, enfin, ou les traits extrêmement rapides, devaient toujours se plier, c'est-à-dire faire une très jolie révérence et laisser la place à l'expression musicale et à l'émotion et à ce qui représente un artiste ou un être humain. Voilà.
Alors, qu'a-t-il apporté en tant que compositeur ?
Alors, en tant que compositeur, je dirais qu'il est, si on se plonge dans son harmonie, un immense révolutionnaire, dans le sens où c'était un amoureux du bel canto. Donc, son papa était français. Donc, on pourra dire que sa main droite correspond à son côté français et latin. Et il y met tout l'art de l'opéra italien qu'il adorait plus que tout. Et il arrive à l'adapter donc à ce nouvel instrument, le piano. Et son grand cheval de bataille est évidemment le Legatissimo. Et il arrive à nous faire des phrases immenses sur deux lignes, chose qu'on avait rarement vue avant dans l'écriture de la musique. Et je dirais que sa main gauche correspond très certainement à sa maman polonaise. Donc voilà, nous y retrouvons toutes ces inspirations qu'il a pu glaner dans les champs en entendant des paysannes chanter des mazurkas. Et donc, c'est ce qui nous captive dans Chopin, c'est-à-dire qu'il a cet art de nous faire pouvoir fredonner un air. Ça nous reste dans la tête et qu'en même temps, au niveau de l'harmonie, il y a des innovations et surtout tout ce qui fait son pays, la Pologne. Il utilise sans cesse les gammes mineures, mélodiques, ascendantes et descendantes qui donnent ce côté oriental et qui font tout le charme de cette musique.
Toute cette révolution qu'il a amenée sur le plan pianistique et harmonique, est-ce que finalement ça a donné lieu à des successeurs et à des écoles importantes ?
Alors son plus grand successeur sera Debussy. Comme autre compositeur, il y a Scriabine qui utilise énormément des harmonies de Chopin et de son invention et de son génie harmonique et de toutes ces couleurs ou résolutions qui n'arrivent pas mais qui viennent de son pays natal et de toute la couleur d'enfant qu'il a pu entendre au sein des chansons populaires et au sein de son pays, de sa culture propre.
Alors pourquoi tant de grands pianistes ont-ils cette facilité à interpréter Chopin ? Est-ce que c'est un don en soi ou n'importe quel pianiste est capable de jouer Chopin, à votre avis ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, avec Chopin, nous sommes dans l'Olympe. Donc voilà, peut-être aussi sa main droite représente l'ambroisie et sa main gauche, le nectar. Enfin, vous choisissez comme vous voulez, mais je pense que pour Chopin, c'est une question d'affinité. Chopin est né Chopin. Dans ses premières polonaises, ou dans l'œuvre de Chopin, même vers la fin, il y a Chopin. On le sait que c'est du Chopin, donc il est déjà lui-même.
Mais comment est-ce qu'on arrive à retranscrire toute cette émotion ?
Ah, justement, là est le problème. Quand je disais de l'affinité, il faut être poète. C'est-à-dire que nous avons des musiciens, et ensuite on a des artistes musiciens, et ensuite on a des poètes artistes musiciens. Et quand je dis qu'il faut avoir une affinité avec Chopin, si on n'a pas une poésie à l'intérieur de soi pour retraduire les écrits de Chopin, on passe certainement un petit peu à côté de Chopin. Voilà, il faut avoir cette âme poétique.
Tout le monde ne peut pas jouer Chopin. Tout pianiste n'est pas apte.
Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de pianistes qui sont pratiquement dédiés toute leur vie à Chopin. Un type comme Cortot, par exemple, ou des gens comme ça, et même une bonne partie Rubinstein, ils ont joué du Chopin et c'était leur grand compositeur.
Oui, mais parce que lorsque l'on travaille et que l'on découvre les joyaux de l'harmonie de Chopin, c'est-à-dire qu'en fait c'est un merveilleux bijou taillé de multiples facettes. Et quand on arrive à les faire vibrer, c'est-à-dire que la note principale va être là, mais que toutes les autres notes qui entourent cette note principale qui fabrique un accord arrivent à venir en reflet et qu'on arrive à faire ressortir ces reflets, on est captivé par l'écriture de Chopin et on a du mal d'ailleurs à la quitter. C'est-à-dire, on y retourne toujours avec un immense bonheur et on est captivé de cette...
Mais vous ne voulez quand même pas dire que quand ils jouent d'autres œuvres, elles leur paraissent fades après
avoir
joué du Chopin.
Je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'elles leur paraissent fades, mais il y a ce joyau de l'harmonie chez Chopin et qu'on vient quand même regoûter très souvent.
Comment devient-on un spécialiste de Frédéric Chopin ? Alors vous disiez qu'il faut quand même avoir une couleur, une certaine... avoir un peu ça en soi. Comment est-ce qu'on devient un spécialiste et quel grand interprète peut-on citer ?
Alors, on devient un spécialiste de Chopin, je dirais, par transmission. C'est-à-dire que les grands maîtres que l'on peut croiser dans notre vie agissent comme des diastases, c'est-à-dire qu'on doit... Diastase, c'est le mot ancien d'enzyme, c'est-à-dire ils vont favoriser en nous, dans artistes, une évolution ou une prise de conscience de quand on lit une partition, on doit entendre ensuite ce que l'on va jouer, de ce que l'on lit. Et donc, il y a de très grands maîtres. Moi, j'ai eu cette chance de croiser donc Oswaldo Skrzydłowski, qui lui-même eut la chance d'être enseigné par Stanislas Neuhaus, Dieter Weber, Maria Curcio et Magda Tagliaferro. Et donc, on ouvre la sensibilité d'un artiste à comment les partitions de Chopin sont écrites. Car son grand art, c'est le rubato. Le rubato, ça veut dire rubare, qui veut dire voler en italien. Voler, mais redonner au temps. Et ça ne peut pas s'écrire sur une partition. Et on le sait que c'était un très, très, très grand improvisateur. Donc, on doit imaginer que ses mains droites devaient être improvisées, ainsi certainement que ses mains gauches. Et donc, on doit essayer de trouver pour se rapprocher le plus possible de ce que pouvait être Chopin lui-même jouant ses propres œuvres.
Mais il y a d'ailleurs une chose amusante, c'est que les grands spécialistes de Chopin revendiquent toujours une sorte d'ascendance. C'est-à-dire, ce monsieur a été élève d'un tel, qui a été élève d'un tel, qui a été élève de Chopin.
Parce qu'on ne vient pas de rien, on vient toujours de quelqu'un. Et quelqu'un, et là, par rapport à Chopin, je dirais que Zwinny, qui était professeur de violon, a quand même initié Chopin à Bach, à l'écriture de Bach, aux 24 préludes et fugues, et qui a formé ce futur pianiste-compositeur, qui lui a donné des règles, et qui lui a permis de connaître Bach, qui à l'époque n'était plus à la mode, et qu'on avait...
Vous citez Bach, mais je vous rappelle que dans une autre précédente émission, on a vu que la seule partition que Chopin avait amenée à Majorque, c'était le clavecin bien tempéré.
Voilà, parce que j'ai envie de dire que c'est notre Bible, on va dire, pour les pianistes, que Bach est notre père. Mais je dirais qu'avant Bach, il y a eu Buxtehude, et qu'heureusement que Bach a fait le voyage à Lübeck et a découvert le tempérament égal. Autrement, nos instruments n'auraient pas évolué dans ce sens-là. Donc Bach non plus ne vient pas tout seul de nulle part. Il a été influencé par Buxtehude, qui l'a énormément aidé. Et ensuite, Bach a voulu prouver qu'il pouvait composer dans ce tempérament dit égal, dans les 24 tons. Et c'est ce qu'il a fait.
Mais à ce propos, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous avez dit en voix off l'autre jour, qui est l'évolution de la technique de construction des pianos, justement au moment où Chopin est arrivé?
Tous les compositeurs, même Bach, composaient à la table avec un clavicorde. Donc c'est un petit instrument qui a des marteaux recouverts de cuir, et qui frappe directement la corde et qui est extrêmement sensible. Et on peut obtenir des quadruples pianissimi. Et donc ça, c'était le rêve de tous les compositeurs, de pouvoir créer un instrument à clavier qui puisse nous rendre le son de la voix, la sensibilité de la voix, ce qu'un violoniste peut rendre avec son archet et sa corde. Et donc, dans la manufacture du piano, on commence justement à atteindre cela, c'est-à-dire que par le clavier et par une corde dite frappée, nous aurons quand même cette notion. Et c'est là que Chopin intervient dans sa technique pour nous dire de quelle manière aborder la touche, tirer le doigt dans la touche pour obtenir le son qui fera que le piano devient une voix du bel canto italien qu'il adorait.
L'écriture de Chopin est très particulière et précise. Comment un pianiste arrive-t-il à exprimer à la fois Chopin tout en gardant sa personnalité d'artiste ?
Ben je pense qu'il faut que le pianiste puisse rentrer dans l'univers de Chopin, dans son monde, pour pouvoir exprimer Chopin.
Mais comment, puisqu'il est mort ?
Nous avons beaucoup de documents. Nous savons que Chopin était un être extrêmement raffiné, délicat, et ce qu'il ressentait en lui était de l'ordre de l'Olympe. Donc on doit comprendre cette... Il n'était pas là, quand on parle de la virtuosité des traits, lui n'utilise pas la virtuosité pour en faire du paraître. Voilà. Et dans ses études, nous sommes dans le savoir-faire et non pas dans le faire savoir, c'est-à-dire que c'est sa virtuosité ou les traits dits virtuoses, il l'utilise pour son expression, pour ce qu'il ressent. Dans le dernier mouvement de la sonate funèbre, qui sur le plan harmonique est presque incompréhensible pour les gens de l'époque, je dirais, raconter ce vent qui passe entre les tombes, ben voilà, il a réussi à ce qu'on ait cette sensation avec un clavier, avec des doigts, que l'on sente un vent qui passe entre les tombes.
Oui, alors que cette virtuosité, pour la virtuosité, c'est un petit défaut auquel Liszt n'a pas échappé.
Voilà, alors... Pour Liszt, je pense que nous pouvons justement parler d'une évolution de l'homme, car Liszt était déjà pianiste. Mais si vous avez lu sa petite enfance, ce n'était pas évident. On a trouvé qu'il était enfant prodige. On l'a essayé de le présenter à Beethoven. Je ne me souviens plus s'il a réussi à être reçu par Beethoven, mais je crois que si. Et que Beethoven a dû lui demander de transposer un prélude et fugue de Bach et qu'il a fait tout de suite. Il était aussi élève de Czerny. Et ensuite, son père a fait comme le père de Mozart, c'est-à-dire qu'il l'a emmené dans l'Europe entière et l'a fait tourner, c'est-à-dire a fait chose que le père de Chopin n'a pas fait. Le père de Chopin savait que son fils était un génie, mais il n'a pas tout quitté, arrêté. Il n'a pas demandé à son fils de devenir...
Il lui a jamais demandé d'être un singe savant.
Voilà, il a respecté son fils.
Jouer Chopin implique-t-il d'atteindre un cheminement et une maturité pour l'interpréter ? Alors, est-ce qu'on peut jouer ça quand on débute ou est-ce qu'il faut vraiment... arriver au Conservatoire supérieur de Paris pour pouvoir l'interpréter.
Alors, je dirais qu'il faut aller très lentement. Malheureusement, nous sommes dans une société où tout doit se faire très 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 vite. Je dirais qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas cette notion de rentabilité, tout comme, je ne me souviens plus du nom de l'artiste, mais quand on visite le baptistère à Florence, de cette porte du paradis, et que cet artiste a consacré sa vie pour faire juste une porte. Voilà. Donc il n'y avait pas la notion du temps par rapport à l'art, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Chopin. Il n'y a pas la notion du temps et de rentabilité dans sa production.
Mais c'est certain qu'il n'avait pas une cantate à faire toutes les semaines.
Voilà, il n'y avait pas non plus ça. Bon, après, il y a ce qu'on peut appeler des facilités, parce que quand Mozart découvre Bach, et dans sa sonate La Chasse, il s'essaye à la fugue, Mozart se rend compte que finalement, ce n'est pas complètement son truc, la fugue. Donc voilà, après, on est plus ou moins, ce qui n'était pas le cas de Beethoven. Beethoven était un être merveilleux par la fugue.
Et justement, vos élèves, par exemple, qui ont entre 8 et 10 ans, vous leur faites travailler quoi si vous faites travailler Chopin ?
Bien, je dirais que je ne commence peut-être pas quand même par Chopin pour attendre... Chopin est un kaléidoscope de couleurs. Donc, nous devons aller lentement pour les élèves, pour petit à petit qu'ils développent leur oreille, comme on va développer une bouche par rapport à un vin ou par rapport à un parfum. Donc, un enfant ne va jamais déguster du vin parce que son palais n'est pas encore formé. Donc, je dirais que l'oreille d'un enfant, nous devons la former à l'harmonie et petit à petit au son. Et là, on doit suivre quand même les directives de Bach par rapport à ce qu'est le choral et l'harmonie à quatre voix, qui de toute façon, si on réduit la musique, reste de l'harmonie à quatre voix et peut se réduire en un choral.
Et enfin, un même artiste peut-il imaginer plusieurs façons de jouer Chopin, selon son humeur, les événements de sa vie ou son âge, par exemple ?
Alors moi, je pense que pour jouer Chopin, ce n'est pas une question justement de maturité, mais une question d'affinité. d'affinité avec cet immense compositeur qui était lui dès le départ. Donc souvent on a une affinité à sentir le rubato, l'improvisation et à faire ressortir tout le reflet de son harmonie. Alors peut-être que dans le temps, on peut obtenir cette affinité, mais ce n'est pas une question de maturité pour moi. Ce n'est pas une question d'avoir vécu des choses difficiles. Ce n'est pas la même chose que pour d'autres compositeurs.
Voilà. Oui, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Alors que certains artistes font des intégrales, ils en font plusieurs dans leur vie, est-ce qu'il y a un certain nombre de pianistes qui ont fait plusieurs intégrales ou plusieurs interprétations de Chopin à différents moments de leur vie et qui les ont enregistrées successivement ?
Alors ça, je ne sais pas.
Justement, je vais vous avouer. Je vous pose la question parce que je ne vois pas moi-même.
Moi non plus, donc je ne sais pas.
Alors qu'il y a des tas de gens qui ont fait plusieurs intégrales des sonates de Beethoven.
Oui, mais etc. Ce qui est normal, parce que Beethoven à 20 ans, c'est ce que je vous disais, jouer l'opus 110 ou 111 à 20 ans, je ne sais pas comment on peut jouer cette œuvre-là alors qu'on n'a que 20 ans et qu'on est dans la fleur de l'âge et que... Je ne sais pas comment on peut ressentir ce que ressentait Beethoven à cet âge-là. C'est dans ce sens-là. C'est là où je dis que Chopin, d'abord, malheureusement, il est mort quand même très jeune. On donnait chez les Romains la majorité à 33 ans. Hein. Donc Chopin, voilà, pour moi, c'est un jeune homme qui est, il n'a pas eu le temps d'être un homme, ce qu'on appelle dans la maturité. Il n'a pas eu le temps, dû à sa maladie. Donc je ne pense pas qu'on puisse penser de cette manière-là.
D'accord,
pour lui.
C'est très intéressant comme idée, ça.
Bien que Mozart, dans Idoménée, on sent qu'il y a un changement dans son écriture, mais parce que là, il peut dire non à son père. C'est la première fois qu'il peut dire non à son père. Donc peut-être que des gens comme Liszt et Mozart ont eu, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas dans quel sens on doit le dire, mais un père très présent et qui les a poussés à faire énormément de concerts. Et Chopin n'a pas eu ça, c'est-à-dire il n'a pas eu la présence d'un père qui lui imposait des directives musicales.
Et vous me pardonnerez mon amour pour Bach, mais il y a un autre virage important dans la vie de Mozart, c'est sa découverte de Bach.
Bien sûr, son écriture
change complètement.
C'est ce que je vous disais dans la chasse, dans cette sonate, on sait qu'il a découvert Bach.
Voici donc la fin de cette série d'émissions en hommage au bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces 7 émissions. Si vous désirez les écouter ou les réécouter, elles sont toutes disponibles sur le site de Canal Academy. Merci Armelle Joubert pour être venue nous parler de la partie technique pianistique de Frédéric Chopin.
Merci à vous.
Merci Jean-Pierre Grévois pour nous avoir conté la vie du compositeur sans en prendre le moindre parti.
Merci, mais ça a été très agréable de raconter tout ça.
C'est ainsi que s'achève cette série d'émissions. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission Carrefour des Arts.